Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous écouter les petits matins. Quatrième semaine, ça commence. Nous sommes le lundi 19 septembre 2016. Il est 6h sur France Culture. Les premiers titres de la journée, c'est avec vous Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Jacques Chirac vient de passer sa première nuit à la Pitié-Salpêtrière. L'ancien président de la République a été hospitalisé hier à cause d'une infection pulmonaire et devrait le rester plusieurs jours. Âgé de 84 ans, cette figure politique, devenue très populaire, surtout depuis son départ de l'Élysée en 2007, a été l'objet de nombreux messages de sympathie, notamment des candidats de la primaire à droite, même de ceux dont il a été un farouche adversaire. Les enquêteurs semblent penser désormais que la fausse alerte terroriste de samedi à Paris serait l'œuvre de pirates informatiques. L'hebdomadaire L'Obs affirme même sur son site avoir été en contact avec les deux hackers, responsables de la vaste opération déclenchée dans la capitale, des adolescents qui auraient voulu faire le buzz. Ils risquent 2 ans de prison. Aux États-Unis, là, les attaques ont été bien réelles. Des bombes ont explosé à New York et dans le New Jersey et un homme a agressé des passants au couteau dans le Minnesota. De toutes ces attaques, une seule, celle au couteau dans le Minnesota, a été revendiquée par le groupe État islamique. Pour les autres, les autorités restent très prudentes. En Syrie, la trêve a visiblement vécu. Des raids de la coalition ont touché l'armée de Bachar al-Assad et les bombardements ont repris également contre l'opposition à Alep. Russes et Américains s'accusent mutuellement de vouloir faire échouer la paix. Le pouvoir russe, sûr de ses forces en son territoire, le parti pro-Poutine a obtenu une écrasante majorité hier à la Douma lors des législatives. Selon les premiers résultats, Russie unie occupera les 2/3 de l'Assemblée. Un contrôle du Kremlin sans précédent sur la Chambre, ouvrant la voie à des révisions constitutionnelles et à un 4e mandat présidentiel en 2018 pour Vladimir Poutine. En revanche, c'est une nouvelle claque pour la chancelière Angela Merkel en Allemagne. Le parti conservateur, la CDU, a enregistré le pire résultat de son histoire pour des élections régionales à Berlin. Et terminons par cette expérience que François Angelier, vous n'auriez certainement pas boudé si elle ne s'était pas tenue.
Allons-y.
À Strasbourg.
De quoi s'agit-il ?
Environ 200 spectateurs ont assisté hier à une projection nocturne des Dents de la Mer.
Ah,
déjà vous aimez.
Très bien, très bien.
Et ça s'est passé dans une piscine.
Ah, mais est-ce qu'il y avait un requin ? Parce qu'il faut,
alors,
il faut le requin.
Alors on ne sait pas, mais c'était dans une piscine, les pieds dans l'eau, certains assis dans des bouées. Pour plus de frayeur, ont-ils commenté.
À tous ces gens qui aiment se faire peur. Merci beaucoup Amélie Perrier. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30 pour un journal complet de la rédaction.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il y a des nuits qui ne tiennent pas dans un lit, qui ne tiennent pas en place à vrai dire, des nuits de doutes et d'inconnus multiples et il n'y a qu'à 6h02, qu'à 6h03 que tout d'un seul mouvement se met en place, que les mots eux aussi s'éveillent. Vous vous réveillez sur France Culture, bienvenue dans les petits matins. Notre image est affaire de concentration. La vidéo en noir et blanc est de mauvaise qualité, mais on voit très clairement un visage de femme en gros plan, tête baissée. Elle met bien quelques minutes à retrouver la combinaison d'un petit cadenas à code qu'elle tient entre ses doigts, tout près de son visage. Un visage doux et paisible, bien que marqué par l'âge et la fatigue. Autour d'elle, on ne voit pas très bien le paysage, seulement quelques branches un peu sèches d'un petit arbuste. Et si l'on ne voit rien d'autre, l'arrière-plan, c'est le son qui nous en donne une idée. Un bruit qui contraste avec la concentration dont cette femme peut faire preuve. À aucun moment, elle ne lève les yeux ou tourne la tête. Elle est tout entière à son cadenas. Très vite, on remarque une lourde chaîne posée négligemment sur ses épaules. Une fois le cadenas ouvert, elle ajuste cette chaîne qu'elle noue autour de sa poitrine. Assise par terre, elle finit par enrouler la chaîne autour d'une branche. Avant, cela comme dans un dernier moment d'hésitation, elle lève la tête en l'air. Une femme plus jeune vient s'asseoir à côté d'elle pour partager la même chaîne. Un sous-titre japonais traduit en français nous apprend que cette nouvelle arrivée est la fille de la première. Elles s'attachent donc toutes les deux au même arbre, dans un calme déstabilisant. Autour d'elle, plusieurs personnes s'agitent, paysans, étudiants, activistes. Nous sommes sur une ZAD au Japon au tout début des années 70. Les habitants de Narita s'opposent à un projet d'aéroport maintenant devenu l'un des plus importants du Japon. Le film capte ce moment de calme apparent qui est en fait une phase de préparation à la violence. Les forces de l'ordre ne sont pas loin et s'apprêtent à charger. Cette vidéo est le point d'entrée de Provoque, cette exposition qui a lieu jusqu'au 11 décembre sur l'art et la photographie de la contestation au Japon dans les années 60-70. Sur le mur qui accompagne cette vidéo dans cette salle d'exposition, l'inauguration du bal à Paris, les paroles d'un chant de révolte paysanne sont inscrites, un chant de femmes qui interpellent la police et leur demandent de réfléchir un instant, penser que leurs parents, eux aussi, sont très certainement des paysans, qu'ils sont eux aussi accrochés au sens propre à leur terre. Alors s'enchaîne ni aucune autre attache, à 6h04, il est peut-être temps de poser un premier pied sur la nôtre de terre. Passage en revue de visages féminins, de voix féminines, de mots aussi, et ce n'est pas pour déplaire à François Angelier qui, dans son premier émoi de la semaine, nous parlera de la revue Schnock avec en couverture le visage sans âge d'une Catherine Deneuve, épaule dénudée, clope au bout des doigts. Mais avant cela, la femme que nous retrouvons maintenant sait mettre comme personne des mots sur la nuit, sur l'aube et maintenant sur le crépuscule. Léonora Miano, auteure de L'intérieur de la nuit, des contours du jour qui vient, des aubes écarlates, revient avec un nouveau roman, Crépuscule du tourment, où quatre femmes font face au même homme. Il y est question de mots pour se dire, pour se libérer, pour aimer. Léonora Miano est jusqu'à 6h25 l'invitée du Passo Doble de Toufik Hakem dans les petits matins sur France Culture.
Passo Doble.
Passo Doble.
Lundi, littérature.
Bonjour Léonora Miano, ravi de vous retrouver.
Bonjour, ravi également d'être ici.
Quatre voix de femmes habitent votre dernier roman, Crépuscule du tourment, publié chez Grasset. Quatre femmes qui s'adressent à un même homme. Cet homme, c'est un peu le fantôme du roman, il faut le dire, l'absent omniprésent. On finit vite par l'oublier pour entendre à tour de rôle Madame sa mère, son ancienne amante, sa future femme et enfin sa sœur. Donc chacune va parler de sa relation avec cet homme et au-delà de sa relation avec son corps, avec son histoire, avec la famille, avec la culture. Est-ce que c'était très important pour vous, Léonora Miano, de faire entendre des voix de femmes, de prendre quatre personnages féminins ?
Puisqu'on se connaît bien, je vais vous dire la vérité. Ce qui était important pour moi, c'était d'arriver à m'examiner moi-même sous tous les angles. Il m'a fallu quatre figures féminines pour le faire. C'était un roman que je voulais une espèce de traversée de mes propres nuits intérieures et voilà, je voulais examiner pour moi-même ces questions de la culture, de l'intimité, de comment est-ce qu'on se construit en tant que femme, de ses relations avec les autres, tout ça. Et ma manière à moi de me déshabiller, c'est de raconter des histoires. Donc il n'y a que moi qui sache derrière les personnages quelle est mon histoire, quels sont les points de biographie que j'ai souhaité analyser, mais c'était ça la nécessité.
Et pour vous, le roman c'est la place de l'intime, on peut exprimer ce qu'on cache, ce qu'on est obligé de cacher.
C'est l'espace de la plus grande liberté et de la complétude totale. Donc oui, on peut exprimer ce qu'on ne dit pas au quotidien. On peut montrer à soi-même d'ailleurs aussi ce qu'on n'accepte pas de soi. On peut tout faire. Il n'y a pas de limite pour moi. Il n'y a pas de limite dans cet espace-là. C'est l'endroit où on ne transige pas, l'endroit de la plus profonde vérité. L'endroit du refus de la complaisance aussi, voilà, c'est pour moi c'est ça, ouais. Donc on peut tout faire, tout voir, tout dire.
C'était la semaine dernière, cette interview que j'avais enregistrée avec Megan Abbott, auteure américaine, et comme elle travaille dans le polar, je lui demandais quelle était l'idée de départ d'un polar, une chose vue, une chose sentie, une envie de parler d'un milieu, comment elle faisait pour commencer la première ligne. Elle me répondait, c'est la voix qui compte. Tant que j'ai pas trouvé la voix de mon personnage, et je dis bien la voix avec X à la fin, je ne peux pas me lancer dans l'écriture. Et vous, Léonora Miano, vous travaillez avec quatre voix. Est-ce que ces quatre états différents, quatre manières d'aborder votre intimité qui se dissimule derrière ces quatre femmes de votre roman Crépuscule du tourment?
Pour moi, le point de départ de l'écriture d'un roman, c'est toujours une question. Ensuite, je crée des personnages qui représentent pour moi les données de la question. Alors, elle est jamais révélée au lecteur, cette question, parce que ça n'a pas d'importance pour lui. Mais pour en approcher la réponse, j'ai besoin, oui, d'inventer des figures et de les faire interagir et beaucoup penser. Quand j'ai vraiment une question douloureuse et très intime, ça peut donner même des romans un peu théoriques parce que ça va être assez assez réflexif. et on est dans cette veine pour ce crépuscule, hein, et pour le texte qui suit, parce que ma nuit à traverser est longue. Mais après ça, je pense que j'ai vraiment pété la forme et que je vais faire autre chose.
Mais est-ce que vous cherchez une voix particulière à chaque personnage? Donc une écriture particulière?
La plupart du temps, oui. Surtout si je les fais parler, si on entre dans l'oralité, je cherche un phrasé, quelquefois même un vocabulaire, des tics de langage. À chaque personne, les lecteurs ne les voient pas toujours, mais ici elles ont vraiment un rythme particulier et des habitudes. Oui, elles ont leur tic de langage, j'ai besoin de les entendre. De toute façon, moi je suis un auteur qui entend ces textes, et il y a une justesse du texte, une justesse rythmique et mélodique. Et c'est même ça qui prime. Il peut m'arriver d'écrire un mot dans une phrase juste pour avoir le bon phrasé, pour une question de rythme, et de chercher ce mot pendant toute une journée, de rester une demi-journée sur un paragraphe parce qu'il faut résoudre un problème de rythme. Donc oui, je suis habité par ces questions-là, et la voix est très importante. Mais c'est comme au théâtre, hein. Si le texte ne sonne pas juste, on peut mettre tous les décors qu'on veut, faire ce qu'on veut au personnage, ça marche pas. On n'y croit pas.
Alors c'est bien d'entendre ces voix et d'avoir votre réaction, Léonora Miano. Donc avant de parler du fond, c'est-à-dire du rapport au corps qui est très important dans votre roman, de la sexualité féminine, mais aussi le propos politique qu'il a depuis le début de votre carrière d'écrivain, votre point de vue sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou même en France. Avant tout ça, faisons entendre ces voix qui habitent votre livre. Et le premier extrait, je voudrais que vous le lisiez vous-même, Léonora Miano.
Alors ici, c'est un personnage qui s'appelle Amandla, que j'aime beaucoup, que j'avais créé déjà il y a quelques années, qui m'avait valu d'être accusé d'être une Black Panther. Et Amandla est, on va dire, française, née en Guyane française. Et donc c'est une créole, une personne descendante de déportés subsahariens, et qui a été élevée par une maman qui ne lui a transmis que la douleur d'être noir, ou d'être en tout cas appelé comme ça, et d'avoir été coupé de son ancestralité. Et donc Amandla est quelqu'un qui voit le monde et ses relations avec les autres à travers ce prisme très particulier.
Down here below, the winds of change are blowing through the weary night. I pray my soul will find me shining in the morning light. Down here below.
Je n'étais qu'une enfant lorsque ma mère m'apprit à récuser les appellations par lesquelles notre identité fut bafouée. Ces mots à travers lesquels on s'employa à nier notre humanité. Je sus très tôt que la terre où l'espèce humaine vit le jour s'appelait Kemet. Que nous étions des Kémites, pas des Noirs. La race noire n'avait été inventée que pour nous bouter hors du genre humain. Justifier la dispersion transatlantique. faire de nous des biens meubles que l'on achèterait à tempérament, des bêtes que l'on marquerait au fer rouge avant de les baptiser selon le rite chrétien. Nous résiderions désormais entre l'objet et l'animal. Tel est le sens du nom racial dont on nous affubla. Jamais il ne fit référence à nos 36 carnations. Je ne comprends pas que nous soyons si nombreux à nous définir ainsi, à nous approprier l'injure, à prétendre l'investir d'une autre signification. C'est comme habiter une benne à ordures après l'avoir récurée et repeinte.
And we are banished from your grace. The one you fashion with your hand.
Léonora Bienneau, vous avez pris une voix très très douce pour cet extrait.
Je suis une personne très douce. Peut-être pas Amandla, mais moi je suis une personne très douce. Et je pense que, de façon générale, si on veut dire des choses fortes, il ne faut pas crier. Je donne souvent des récitals poétiques, donc j'écris des textes poétiques et politiques qui sont parfois difficiles à entendre. Et je pense que si je venais sur scène en criant, je ne pourrais pas du tout être écoutée. Quand je parle de la race, quand je parle de l'immigration non choisie vue d'Europe, alors après avoir envahi le monde, par exemple, je pense qu'il faut exprimer tout ça de manière apaisée, pour que ça arrive au cerveau des gens. Que ça s'arrête pas seulement là où ça fait mal, qu'ils arrivent à l'entendre et qu'ils puissent y penser, même s'ils sont pas d'accord. Parfois les gens sortent, hein, ils sont trop agressés parce que je leur dis et qu'ils ne s'étaient pas imaginés. Mais je suis pas dans le cri, je ne suis pas dans l'invective, je n'ai pas de désir de revanche. Je veux vraiment qu'on réfléchisse à ces questions tout simplement pour avancer. Donc je viens pas gueuler, je fais jamais ça.
Cette sagesse, elle vient avec le temps aussi.
Ah mais moi je suis née vieille, moi. C'est un de mes problèmes dans la vie d'ailleurs. Non, je pense pas que ça vienne spécialement avec le temps. Je crois que c'est ce qui est pertinent quand on approche certains sujets. En littérature ou même en dehors, hein. Si vraiment on veut être entendu des gens, il faut entrer en conversation avec eux. Il faut vraiment installer ce ton de la conversation, que les gens comprennent que même si le sujet est désagréable, vous n'en avez pas avec eux, après eux personnellement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas d'eux en tant qu'individus. Et l'attitude est très importante si on veut arriver au bout de cette conversation au cours de laquelle on va se dire des choses parfois désagréables. Et que ce soit ici ou ailleurs, parce que je peux aussi avoir des conversations désagréables avec mes lecteurs africains, hein, ouais. Puisque moi je renvoie tout le monde dos à dos, tout le monde fait des conneries. Et tout le monde peut avoir des choses à se reprocher, donc... Voilà, il faut venir avec l'énergie de l'amour. Moi, je suis très baldwinienne, hein, comme James Baldwin, qui était donc très, très critique, mais qui avait compris qu'on ne peut, travailler à la réforme qu'en acceptant d'avoir partie liée avec les personnes à qui on la demande. Hein, si tu te sens complètement déconnecté, si tu estimes que tu n'as rien à voir avec eux, tu peux rien leur demander.
Léonora Bienneau, moi je parlerai plutôt de maturité, parce que nos premiers entretiens, il y avait quand même une colère qui vous habitait. Cette colère est là, mais ce que j'aime bien dans votre dernier roman, Crépuscule du Tourment, c'est que cette colère s'adresse aussi au temps moderne et au monde entier. C'est-à-dire que c'est remis dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Et pourtant, on retrouve tout, c'est-à-dire le poids de l'histoire coloniale, le rapport dans des sociétés où la culture ancestrale est très forte, le rapport au corps, les interdits et les tabous. Vous consacrez quelques pages d'ailleurs à l'homosexualité féminine, et ça fait partie d'ailleurs du caractère un peu militant de votre roman. Vous décrivez aussi la bourgeoisie africaine d'aujourd'hui, de ce monde mondialisé. On a l'impression que vous avez pris du recul sans avoir rompu avec vos combats.
Je suis pas persuadé d'avoir des combats. Ni d'avoir pris tellement de non, mais vous me direz ça, moi je suis pas persuadée, en tout cas, de les placer où vous les mettez. Ce que je dirais de moi il y a quelques années, c'est pas que j'étais en colère, j'étais très sur la défensive. Aujourd'hui, je m'en fous de ce qu'on dit. Avant, j'avais l'impression d'avoir quelque chose à défendre. Et plus tellement aujourd'hui. On peut me lire comme on veut, dire ce qu'on voudra. J'en suis plus là. J'ai 40 ans passés. Alors là, peut-être que la maturité est effectivement de ce côté-là. J'ai 40 ans passés, mais surtout, je suis un auteur. Quand même un peu reconnu, hein. J'ai été très très fêté. J'ai pu écrire finalement sur les thématiques qui m'intéressaient, même quand elles ne plaisaient pas. Je pense qu'il y a un moment où il faut se rendre compte aussi de ce qu'on a reçu.
Ça veut dire quoi, écrire sur des thématiques qui nous plaisent pas? C'est un combat, c'est une manière d'affronter le réel et d'avoir son mot à dire, non, Leonora Miano?
Non, parce que c'est quand vous avez écrit que vous vous apercevez que c'est un problème pour les autres. J'ai jamais décidé d'écrire en disant je vais écrire là-dessus parce que ça ne plaît pas. Quand j'ai commencé à créer des personnages noirs dans l'espace européen, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes éditeurs que je n'avais pas. Quand je leur proposais des textes qui se passaient en Afrique, j'ai commencé à entendre des choses comme « mais ces personnages ne sont pas universels ». Donc que les personnages africains étaient donc plus universels que les personnages afropéens. C'était très curieux comme discussion, mais enfin, voilà. Mais je n'écrivais pas ça pour déplaire, j'écrivais ça parce que ça faisait partie de ma réalité. C'était des choses que je voyais autour de moi et que j'avais envie d'interroger et de partager avec les gens. Et je me suis rendu compte que c'était un problème. Mais c'est pas parce que c'était un problème pour eux que j'allais cesser, parce que ça me semblait nécessaire et en phase avec les évolutions de la société. Je pense que c'est moi qui a eu raison et qu'on aurait dû me lire à l'époque. On aurait vraiment dû me lire.
Mais sauf que cet afrocentrisme qui posait problème dans vos premiers romans et qu'on retrouve dans Crépuscule du Tourment, il est inscrit dans un phénomène plutôt universel qui est la crispation identitaire, que vous jugez d'ailleurs très bien. Hein. Vous n'êtes pas là pour être juge. Vous voyez aussi l'importance que ça a de s'approprier une culture et d'être inscrit dans cette culture. Et vous montrez aussi les dérive de cette envie identitaire qui est effectivement universelle aujourd'hui.
Oui, elle est universelle. Les gens ont l'impression que le monde va trop vite et n'arrivent pas à se représenter l'avenir. Donc voilà, l'inconnu fait peur. Hein. Tout le monde n'est pas excité par l'inconnu comme je peux l'être ou par l'idée de la métamorphose profonde. Je pense par exemple que l'Europe va sortir de l'occidentalité, mais c'est pas un truc qu'il faut dire aux gens, ça leur fiche la trouille. Alors que ça peut être chouette la post-occidentalité en fait. Et je pense vraiment que c'est vers là qu'on va. Mais bon, les gens n'ont pas envie. Ils veulent se dire qu'ils restent des descendants de leurs ancêtres et qu'il y a quelque chose de fondamental qui ne bougera pas. Mais cette envie, c'est pas seulement ici. Ça existe aussi en Afrique.
Qui t'a inventé des légendes?
Ah ben oui, et tout le monde en invente des légendes. Et tout le monde s'y cramponne hein, aux légendes inventées parce que on a envie, c'est normal de vouloir se définir, c'est normal de vouloir un peu ennoblir ses traits. Ce qu'il est peut-être moins, c'est de vouloir inférioriser les autres, c'est de vouloir, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est normal de vouloir se voir beau dans le miroir, quoi, je veux dire, c'est humain.
Léonora, c'est beau comme prénom, mais c'est très africain, c'est très particulier, c'est votre prénom d'écrivain
Non, 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 c'est mon vrai prénom. En fait, mon premier prénom, parce que j'en ai beaucoup, est un prénom composé, c'est Clarisse Léonora, donc c'est très long, Clarisse Léonora. J'étais le premier enfant et donc mes parents voulaient tous les deux donner le premier prénom, donc j'ai un prénom composé. Mon père m'a appelé Clarisse, ma mère Léonora.
C'est pas très camerounais, hein.
Non, mais j'ai plein de choses derrière. J'ai un nom camerounais aussi, un nom très, très, très de la côte du Cameroun que je pourrais énoncer lorsque je disparaîtrai et que je rencontrerai mes ancêtres. Je leur dirai ce nom-là et pas Léonora, comme ça ils me reconnaîtront et je serai admise auprès d'eux. J'en ai un. Je ne le dis jamais parce que les Français ne savent pas le prononcer. Je déteste qu'il soit écorché.
Eh ben, mais dites-le vous-même.
Mais je réponds aussi à ce nom-là. Je m'appelle Ndondoki.
Comment ?
Ndondoki. Et Ndondoki, ça veut dire l'aiguillon ou le dard. C'est ma mission.
Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin, dans ce petit moment préparé avec Anaïs Isbert, réalisé par Thomas Duterre. Bonne matinée.
Un entretien que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des petits matins. C'est très agréable de se réveiller sur la voix de Léonora Miano, très belle voix, très féline. Et maintenant, on va vraiment se réveiller avec la voix beaucoup moins féline de François Angelier. Il est 6h26 sur France Culture.
Les émois. François Angelier.
Bonjour François.
Bonjour Émilie.
On commence la semaine avec cette superbe revue dont le numéro 20 vient de paraître avec Catherine Deneuve en couverture, c'est Schnock.
Oui, la revue Schnock, qui est une de mes revues fétiches avec la revue Elle, vous l'aurez compris. Alors Schnock, surtitré la revue des vieux de 27 à 87 ans, étant à peu près au milieu, je suis donc le gibier rêvé pour cette revue qui est la revue de la nostalgie, la revue de l'amour et surtout de périodes qu'on n'a pas connues. Alors c'est le numéro 20 de Schnock, ils en ont fait du chemin depuis leur premier numéro avec Jean-Pierre Marielle en couverture. Là, c'est Catherine Deneuve et Paul Dénudé, la clope au bec, comme vous le disiez, jupe moutarde et un haut noir et un peu charbonneux. Donc, effectivement, c'est elle qui est un peu l'emblème et là, je dirais le néon de la rue. Alors, qu'est-ce que c'est que Schnock ? Eh bien, on a l'impression que c'est Roland Barthes qui va errer au marché Malik. On est entre le plaisir de fouiller dans les brocantes le samedi et puis les mythologies, c'est un peu de ça. Mais c'est des gens qui ont toujours eu ce souci de n'être ni dans l'ombre dans le kitsch bigot, ni dans la vivisection et l'analyse furibarde. Ils essaient de prendre le pouls d'une époque ou de retrouver ce que j'appellerais le vibrato émotionnel, la pulsation affective d'une époque assez large, puisque c'est les années 50 à 80. Je veux dire, c'est un petit peu la culture matérielle et la culture quotidienne des 30 glorieuses Schnock, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'érudition. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro 20 sous l'égide et sous l'invocation de Catherine Deneuve ? Il y a d'abord Catherine Deneuve qui nous, à la fois, leur accorder un entretien carrière, leur parle un petit peu de ses grands moments, alors sa collaboration avec Buñuel. Alors Buñuel qui l'avait fait tourner donc dans Belle de jour, et elle dit le film a fait basculer dans cette zone indécise où on ne sait jamais si une femme est une vierge ou une putain. C'est un film effectivement qui travaille sur ces zones extrêmement ombreuses. Alors il y a aussi tous les témoignages de gens qui ont bien connu Catherine Deneuve, notamment Jean-Paul Rapneau, et puis il y a cette très jolie parole de Vadim, il parlait des sœurs donc d'Orléac. Françoise, sûre d'elle-même, élégante, aimable avec les gens qui se levaient de table pour lui parler, n'avait en rien modifié son attitude. C'est dans une boîte de nuit. Mais Catherine me fit penser à Bernard Lhermitte, soudain rentré dans sa coquille. Déchaînée quelques secondes plus tôt, elle était devenue transparente. Les regards dirigés vers sa sœur la traversaient comme la lumière traverse une vitre. Cette métamorphose me fascinait. Donc Catherine Deneuve au cœur de Schnock. Mais alors évidemment, énormément de choses. Les 15 machines à écrire les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Le point sur les bistrots situationnistes et notamment le célèbre Moineau. Un grand entretien carrière avec Antoine qui parle également d'Andy Warhol. Et puis, on a aussi la culture patte d'eff et on termine avec les Françaises à Hollywood et là on retrouve des gens aussi mondialement connus que René Adoré ou Mijanou Bardot, la sœur hollywoodienne de Brigitte Bardot. Donc c'est le 20e numéro de Schnock, il faut le lire, c'est une revue qu'il faut ne pas rater.
La revue Schnock qui nous fait redécouvrir des talents qui avaient été enterrés. Je vous parlais en antenne de Dominique Sanda, cette actrice dont on n'entendait plus parler. Donc Schnock qui aussi titre sur Trop timide pour être être une emmerdeuse à
voilà,
propos
ça,
de Catherine Deneuve.
La devise de Catherine Deneuve. Non, c'est une revue. Je veux dire, il y a également un hommage à Bud Spencer, je vais le mentionner. C'est toujours très pointu, très érudit,
très
mais
riche,
avec
ouais.
un air de ne pas en avoir l'air qui est tout à fait délicieux.
Eh bien, merci beaucoup François Angelier pour ce premier émoi de la semaine. Merci à vous, chers auditeurs, d'écouter France Culture. Les Petits Matins se poursuivent avec Amélie Perrier, que l'on retrouve dans un instant pour le journal. Mais avant cela, je salue Jacques Mounier. Bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
De quoi sera-t-il question dans ce premier journal?
Eh bien, le torchon brûle entre les économistes d'obédience libérale et les autres, et la polémique enfle dans la presse.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Des enjeux internationaux très européens aujourd'hui encore.
Oui, évidemment, la relation Paris-Berlin, puis on va parler au début évidemment avec notre invité Stéphane Seidendorf des élections régionales en Allemagne.
Et à 6h57, nous retrouverons Guillaume Herner avec des matins placés sous le signe de la Russie. Que vise l'œil de Moscou? C'est la question qu'il posera à ses trois invités.
Chaque jour à 15h, la compagnie des auteurs sur France Culture. Le bonheur de lire, relire, plonger dans les grandes œuvres de la littérature mondiale. Mathieu Garrigou-Lagrange, entouré de biographes, écrivains, traducteurs, nous fait voyager au cœur d'une œuvre. Cette semaine, à l'occasion de la reprise à l'Odéon Théâtre de 2666, événement phare cet été à Avignon, l'œuvre audacieuse d'humanité de l'écrivain chilien Roberto Bolaño. La compagnie des auteurs, cette semaine à 15h. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h30. Le journal, Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. La gauche, la semaine dernière, se disputait l'héritage de Michel Rocard. À droite, aujourd'hui, c'est Jacques Chirac que chacun revendique, même ses anciens adversaires. L'ancien président a été hospitalisé ce week-end pour une infection pulmonaire. Il va rester quelques jours à la Pitié-Salpêtrière. Et les messages de sympathie depuis se multiplient. De son ancien bras droit, Alain Juppé, je lui souhaite de tout cœur de vaincre son mal et de se rétablir très vite. Même souhait de rétablissement de Nicolas Sarkozy pour longtemps son rival et des autres candidats à la primaire à droite, comme Bruno Le Maire lors de son meeting à 7 dans l'Hérault.
Dans mon parcours politique, où j'ai été fier, un moment où j'ai tremblé de fierté d'être français, c'est en février 2003, au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand j'écoutais Dominique de Villepin prononcer son discours et que j'ai vu le monde entier se lever pour applaudir la France. La défense du droit, le respect des règles internationales. Et je veux rendre ici un hommage appuyé au président de la République, Jacques Chirac, parce que lui avait compris, Jacques Chirac, lui avait compris qu'on ne règle rien uniquement par la force et que la force sans le droit provoque toujours des malheurs. Lui avait compris que la France est forte quand elle garde son indépendance. Et que si par moment, il faut s'éloigner de notre allié américain parce que nous ne partageons pas ses analyses, il faut avoir le courage de le faire. Et que l'accord que nous avions conclu avec Berlin et avec Moscou en 2003 nous a permis de sauver l'honneur de la France, l'honneur de l'Europe et l'honneur des Nations Unies.
Voilà Bruno Le Maire, des propos recueillis par Stéphane Robert à 7 dans l'Hérault, où le candidat à la primaire de la droite présentait son programme présidentiel. Marine Le Pen était également à l'agenda de ce week-end politique lors des estivales de Fréjus, l'université d'été du parti. Elle s'est posée en candidate du peuple à la présidentielle. Son slogan, au nom du peuple. Et elle a dressé un tableau dramatique de la situation de la France, gouvernée de l'extérieur, selon elle, par Bruxelles, Berlin ou Washington, et de pointer la perte d'identité et les attaques du système contre, je cite, les petits Français. Les départements en danger, voilà le message, cette fois d'une campagne lancée par l'ADF, l'Association des départements de France. Il s'agit d'alerter l'opinion publique sur la baisse des dotations de l'État et ses conséquences. Bientôt, certains ne pourront plus assurer le paiement du RSA, le Revenu de Solidarité Active. 2 millions de Français en bénéficient aujourd'hui. Dominique Bussereau est le président Les Républicains du département de Charente-Maritime.
Les départements français sont actuellement en grande difficulté. Nous avons beaucoup à investir pour les routes, pour les collèges, nous ne sommes pas loin de la rentrée, pour le très haut débit, pour aider la vie culturelle, sportive, associative. Et en même temps, nous avons des responsabilités sociales versées le RSA. Et le RSA est très important pour beaucoup de Françaises et de Français en période de chômage structurel. Et donc, si l'État continue de ne pas nous verser ce qu'il doit, il y a des moments les départements ne pourront plus le verser. Par exemple, l'année dernière, 10 départements n'ont pas pu verser le RSA en décembre. Cette année, ça sera une quarantaine, certains même dès le mois de novembre. Donc, bon, quelques-uns au hasard dans différentes régions de France, la Corrèze, le Val d'Oise, le Nord, les Ardennes. Donc, vous voyez que la situation est particulièrement grave et c'est la raison pour laquelle nous lançons cette campagne de sensibilisation. Et imaginons un département comme le Nord qui verse 65 millions de RSA par mois. Eh bien, l'État en verse pour 40 millions, alors qu'il va en donner 65. Donc, c'est le département du Nord qui est obligé de payer à la place de l'État. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Alors, les allocataires du RSA percevront, mais les caisses d'allocations familiales que le département doit rembourser ne seront pas remboursées.
Dominique Bussereau, président Les Républicains de l'Association des départements de France. Il était joint par Maïwenn Bordron. Ne l'appelez plus Areva, mais Newco, le géant français du nucléaire, s'apprête à changer de nom. La conséquence de la mutation du groupe en grande difficulté financière. Il est sur le point d'être redécoupé en 3 entités après la reprise de l'activité réacteur par EDF. Le projet doit être approuvé aujourd'hui par les porteurs d'obligations en Assemblée Générale, Jean-Marc Chardon.
Ce sont eux, les porteurs d'obligations, discrets par principe, qui vont se prononcer sur un projet capital, le transfert des actifs dédiés aux combustibles nucléaires. Jusqu'à présent détenus par Areva et demain logés vers la nouvelle entreprise, Newco. Voilà l'aboutissement du démantèlement d'Areva. Newco, dirigé par Philippe Knoche, sera une filiale à 100% d'Areva SA avant l'ouverture de son capital à d'autres investisseurs. Il est question de Chinois, de Japonais, mais l'État conservera les 2/3 du capital, le cycle de l'uranium relevant, avec le retraitement des combustibles, des activités sensibles. L'État, appelé à renflouer le groupe à coup d'injection de capital, devra procéder à l'augmentation promise au début de l'année. Pas moins de 5 milliards sont en jeu. C'est qu'il faut remettre d'aplomb un groupe qui avait accumulé pertes et dettes, plombées par le chantier d'Olkiluoto en Finlande, qui souffre toujours d'une conjoncture déprimée et de perspectives incertaines à l'export. Un groupe reprofilé à coup de restructuration et de suppression d'emplois par milliers. C'est dans cet environnement qu'en France, les personnels des usines du Creusot et de Saint-Marcel en Saône-et-Loire ont accueilli avec soulagement la confirmation du projet d'Hinkley Point, un projet qu'ils jugent atteignable à condition de pouvoir tenir les délais, un défi de plus sur un marché très concurrentiel.
Vote des porteurs d'obligations aujourd'hui donc et adoption définitive du projet prévu début novembre.
6h36 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier. Et l'actualité à l'étranger, c'est l'ouverture aujourd'hui à New York de l'Assemblée Générale de l'ONU.
Un sommet consacré en priorité au sort des migrants et des réfugiés dans le monde. Pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour proposer un plan d'aide. Une initiative vouée à l'échec dénonce d'ores et déjà Amnesty International. L'ONG critique une coquille vide, dénuée de tout engagement concret des États. Jean-François Dubost est responsable du programme de protection des populations auprès d'Amnesty International France.
La revendication première, c'était de sortir du seul prisme des intérêts nationaux pour aller à un niveau au-dessus, le niveau mondial, parce que cette crise est mondiale, elle a des enjeux et des répercussions mondiales. Lorsque les personnes fuient un pays, eh bien, elles vont d'abord se réfugier dans 86% des cas dans le pays le plus proche, les pays en voie de développement, et puis ensuite, certaines vont ensuite tenter de, par des routes très dangereuses, comme la Méditerranée, par exemple, tenter de trouver un refuge plus loin, Union européenne ou Australie ou d'autres pays. Et donc, on voit bien que toute la planète est concernée par cette question-là, soit parce que des États accueillent trop de réfugiés par rapport à leur capacité, et soit parce que d'autres États plus riches, généralement, n'accueillent pas assez et ne sont pas solidaires. Donc nous voulions et nous avions appelé à la mise en place d'un mécanisme contraignant, parce que le volontariat dans ce système-là ne fonctionne pas, les États ne s'engagent pas volontairement à accueillir des réfugiés, il fallait un système contraignant de répartition des réfugiés les plus vulnérables d'un côté, et de répartition des réfugiés d'accueil, hein, surtout d'accueil de ces réfugiés dans des contextes de crise comme celui de la Syrie, où on voit qu'aujourd'hui le Liban a un quart de sa population composée de réfugiés. Il n'est plus du tout en mesure d'en accueillir et de les protéger efficacement. Et le reste de la planète tourne le dos à cette situation. Donc il fallait un mécanisme contraignant, coordonné au niveau mondial. Le sommet de demain était une occasion et elle a été manquée.
Jean-François Dubost d'Amnesty International France. Et parmi les causes de la crise migratoire sans précédent de ces dernières années, le conflit syrien où les espoirs de paix n'ont jamais paru aussi minces. La trêve a visiblement vécu. Les avions de la coalition ont frappé apparemment par erreur des soldats du régime syrien samedi, tandis que les quartiers tenus par l'opposition à Alep ont eux aussi été bombardés. On termine par le temps de ce lundi en France. Des nuages, parfois de la pluie sur quasiment tout le pays et des températures à peine de saison, 10 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi, on prévoit 20 degrés à Paris, 21 à Quimper, 22 à Lyon, 26 à Béziers quand même et 28 à Montpellier. 6h38, merci de commencer votre semaine sur France Culture avec les petits matins d'Émilie Chaudet. Émilie, on passe maintenant au titre de la presse française.
Merci Amélie Perrier. Oui, dans la presse ce matin, campagne présidentielle suite, comme on peut s'en douter, avec des propositions ou des bilans très chiffrés. Comment l'État vide les caisses des villes, titre Le Parisien aujourd'hui en France, en se concentrant sur les trois communes, La Hague, dans la Manche, Val d'Europe et la communauté de communes de Haute-Picardie, forcées à faire des économies, car comme le note Jean-Marie Pontali dans son édito, il s'agit de ponctionner les communes les plus riches, non pas ici pour aider les plus pauvres, mais pour, dit-il, désenfler un peu la dette de l'État. La dette, la baisse des dépenses publiques, c'est aussi la une du Figaro ce matin sur les propositions de la droite en la matière. L'éditorialiste Gaëtan de Capelle se satisfait de cette prise de position des quatre candidats à la primaire à droite, qui, je le cite, ont visiblement tous pris conscience, heureuse unanimité, note-t-il, de cette situation explosive. Situation tout aussi inquiétante du logement en France qui fait la une de l'Humanité ce matin avec ce hashtag « On attend quoi ?», mot-clé d'une campagne que lance aujourd'hui la Fondation l'Abbé Pierre, principalement sur le net et les réseaux sociaux. Le logement doit devenir, selon Christophe Robert, une priorité de la campagne présidentielle. Le délégué général de la Fondation qui s'indigne de ce contraste sur les réseaux sociaux. « On accueille 80 millions de touristes en France chaque année, dit-il. On attend quoi pour loger des personnes sans abri et les quelques milliers d'exilés fuyant la guerre et la misère ?» Campagne présidentielle suite, campagne présidentielle permanente, titre l'éditorial de La Croix en une. L'offre politique s'est beaucoup émiettée à coups de surenchères incroyables, note François Ehrenwein en première page de La Croix. Campagne présidentielle enfin suite et bientôt fin. Aux États-Unis, la lutte finale, titre Libération, avec une Hillary Clinton au micro, poing serré, sourcils froncés, plus que 50 jours avant la date du scrutin. Le journal décortique un programme démocrate bien plus à gauche qu'attendu. De son côté, Le Monde, daté d'aujourd'hui, s'interroge sur les failles d'une Hillary Clinton qui peuvent faire gagner Trump. La guerre est donc encore loin d'être gagnée, tout comme cette autre guerre sur le terrain économique dont vous allez nous parler, Jacques Munier. Il est 6h40 sur France Culture.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Un débat qui prend de l'ampleur, Jacques, dans la presse autour de la charge violente de deux économistes partisans du libéralisme contre ceux qui le mettent en cause.
Oui, dans un livre récent intitulé « Le négationnisme économique », Pierre Cahuc et André Zilberberg dénoncent le charlatanisme, l'obscurantisme, la démagogie et les impostures de certains de leurs collègues sur un ton qui fait redouter à Daniel Schneiderman dans Libération une zémourisation de l'économie. Comment rendre sexy une controverse technique sur l'effet de la réduction du temps de travail sur les créations d'emplois? Pas de problème, zémourisez, traitez donc vos contradicteurs de négationnistes économiques. L'accusation a un relent malsain, sans remonter aux négationnistes forissoniens des chambres à gaz. Le terme s'applique aux climato-sceptiques ou aux industriels du tabac qui contestent les travaux scientifiques établissant un lien entre la cigarette et le cancer. Seraient donc négationnistes ceux qui nient le caractère scientifique de l'économie en jetant le doute sur les vérités les mieux établies par le consensus des économistes. Dans les mêmes pages idées du quotidien Libération, Vittorio De Filippis et Philippe Duroux examinent les arguments des deux économistes orthodoxes. Selon eux, l'économie est devenue une science expérimentale. La multiplication des bases de données, la profondeur de champ qu'elles apportent permettent aujourd'hui de valider des hypothèses qui jusque-là n'étaient pas vérifiées. Elles ne se contentent plus de confronter des points de vue à l'aide de quelques chiffres plus ou moins pertinent ou de faire des simulations à l'aide de modèles mathématiques plus ou moins sophistiqués. André Orléans, l'un des chefs de file des économistes atterrés, particulièrement visé par le pamphlet, ne remet pas en cause l'expérimentation en économie. Elle est un outil, je cite, parmi d'autres, qui peut aider à mieux appréhender les conséquences d'une nouvelle mesure, mais ce n'est pas l'outil miracle. L'expérimentation est particulière, elle est locale et de ce fait ne peut pas conduire à une généralisation. Ce qui est expérimenté ici n'est pas forcément valable en un autre lieu et encore moins transférable à l'ensemble d'une population qui peut croire qu'on fera une expérimentation sur les politiques monétaires des banques centrales, des politiques budgétaires ou encore des réglementations financières.
On peut interroger l'utilité des économistes s'ils disent tous sensiblement la même chose, Jacques.
Oui, alors à quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose? C'était le titre d'un manifeste où les hétérodoxes réclamaient d'être mieux représentés à l'université alors que les orthodoxes trustent la grande majorité des postes. Ils suggéraient notamment, ces hétérodoxes, la création d'une nouvelle section intitulée intitulé « Économie et société » au CNU, le Conseil national des universités. Mais comme le rappellent Hervé Nathan et Bertrand Rotté dans Marianne, l'intervention de Jean Tirol auprès de Najat Vallaud-Belkacem, criant à l'obscurantisme, déjà l'invective, a fait échouer le projet. Les orthodoxes ont gagné la première bataille, mais ils sont sur la défensive devant une opinion écœurée par la crise de 2008. Car les marchés non seulement n'ont pas réponse à tout, mais leur main invisible est devenue indécente. Elle précipite les entreprises dans le temps court des marchés financiers et ruine leur capacité d'entreprendre, comme l'observe le juriste Alain Supiot dans son dernier livre, La gouvernance par les nombres. Externalisation et sous-traitance en sont les manifestations les plus visibles qui poussent les entreprises multinationales à délocaliser tout ou partie de leur production dans des pays où les protections sociales sont inexistantes et le coût du travail au plus bas, même si des catastrophes comme celle du Rana Plaza au Bangladesh les ont amenées à réviser leur conduite en matière de responsabilité sociale. Rappelons les 1133 victimes et 2000 blessés, dont certains handicapés à vie, sous l'immeuble effondré d'une entreprise de confection travaillant pour de grandes marques européennes ou américaines.
Et les pages débat de la Croix confrontent deux points de vue, là encore celui d'André Zilberberg et celui d'Henri Sterdignac de l'OFCE, Jacques.
Voilà, et leur seul point d'accord réside justement dans l'utilité du débat. On peut estimer que c'est mal parti avec ce livre qui sent la poudre à canon. Je retiendrai dans les propos d'Henri Sterdignac que l'expérimentation prônée par les auteurs du livre, le négationnisme économique, occupe une part extrêmement faible dans la recherche économique car elle s'applique seulement à certains phénomènes. Elle pose aussi la question du caractère généralisable des expériences menées car d'autres méthodes de travail existent, la modélisation, l'économétrie ou tout simplement le suivi de l'actualité pour les macroéconomistes et les conjoncturistes.
Eh bien, en tout cas, nous, on ne s'interroge pas sur l'utilité de votre journal des idées. Elle est bien là, cette utilité. Merci Jacques Munier. Et à demain pour un nouveau journal des idées, 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux. Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie.
Tout comme vendredi, nous restons donc en Europe et vous interrogez aujourd'hui la relation Paris-Berlin.
Voilà, par-delà les élections régionales en Allemagne, on va en dire un mot au début, avec notre invité Stéphane Zeidendorf, qui est directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Et on va surtout voir l'importance de la relation Paris-Berlin, Berlin-Paris, dans une Europe sans projet. Alors, bonjour Stéphane Zeidendorf.
Oui, bonjour Thierry Garcin.
Alors, donc, vérité d'évidence, les relations franco-allemandes sont essentielles pour l'avenir de l'Europe. En plus, il va y avoir en 2017 une présidentielle et des législatives en France et puis des législatives en Allemagne, tour à tour. On va voir donc cette relation Berlin-Paris qui, on a l'impression d'ailleurs que Berlin semble depuis un certain nombre d'années sortir de l'enveloppe de l'Union européenne par un certain nombre de comportements ou de décisions ou de réactions ou de propositions. Juste quand même, ces deux élections régionales hier confirment au fond une tendance, on a l'impression, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite et la réduction du parti de Madame Merkel, de la chancelière.
Oui, tout à fait, et aussi la réduction des sociaux-démocrates. Hein. C'est, faut pas oublier que toutes ces élections, les sociaux-démocrates, ils les ont perdues aussi, même s'ils pouvaient garder en deux fois le ministre président régional, mais les deux grands partis qui ont fait l'après-guerre de l'Allemagne, ils sont en train de s'effondrer et on voit cette montée d'un parti d'extrême droite, droite populiste, qui fait son entrée dans les parlements régionaux pour la cinquième fois de suite.
Voilà, il faudra en parler un jour d'ailleurs ici même, c'est la fin apparente des grandes alternances en Europe. On peut parler évidemment du Royaume-Uni, on peut parler de la France, on peut parler de l'Espagne et ainsi de suite, ce qui est assez préoccupant d'une certaine façon, l'émiettement partisan. Alors, pour Paris, Berlin, Berlin, Paris, on est frappé quand même en première approche depuis quelques années par la montée des divergences. Est-ce que vous acceptez ce terme ?
Oui, certes, mais il faut aussi garder en tête que la France et l'Allemagne, ils étaient toujours très différents, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'Europe. Hein. Souvenez-vous, ça remonte dans le passé même, qu'il y avait tellement de divergences qu'il y avait des conflits armés entre la France et l'Allemagne. Ces deux pays qui sont structurellement très très différentes, et l'Union européenne et la construction franco-allemande au sein de l'Union européenne, ils avaient justement permis de surmonter ces divergences et de trouver des compromis acceptables, pour tout le monde. Ce qu'on voit davantage aujourd'hui, c'est peut-être une sorte de réalisme, qu'on est moins dans le symbolique, au moins les symboles, ils sont moins convaincants qu'encore à l'époque de Kohl et de Mitterrand, et qu'on s'avoue plus franchement que les divergences, les différences d'intérêt sont là. En même temps, on voit très bien que les deux chefs de gouvernement, ils savent très bien qu'ils peuvent pas faire sans l'autre. Même si vous prenez le sommet de Bratislava, de jeudi et vendredi encore, on a tout mis en œuvre pour montrer qu'au préalable, il y a un accord franco-allemand, et on a même mis en scène une conférence de presse conjointe, commune, à la fin, pour ne plus donner cette version allemande et française différente de ce qui s'est passé au sommet. Ça, c'est quelque chose qu'on a, à ma façon, rarement vu.
Alors, et en même temps, est-ce que ce n'est pas une sorte de posture de façade, cette prestation germano-française franco-allemande? Et puis, il y a une question quand même pour l'avenir qui reste préoccupante. C'est si, par exemple, le Brexit est effectif, l'Allemagne et la France se retrouveront non seulement côte à côte comme grands pays. L'Italie ne compte pas, malheureusement, nos amis italiens dans les grands dossiers internationaux. Et la France et l'Allemagne étaient contre le Brexit pour ne pas aussi se retrouver à la fois en vis-à-vis et en face-à-face sur de grands choix où les deux pays n'auront pas forcément la même vision. Et c'est un peu inquiétant pour l'avenir.
Oui, tout à fait. L'Allemagne, la classe politique, elle a beaucoup regretté la sortie des amis anglais du Brexit, parce qu'il leur manque aussi un grand allié libéral sur l'économie, ouvert sur les États-Unis, sous-entendu ce qui n'est pas la France. Mais en même temps, les Français, ils ont regretté ce Brexit, puisqu'il leur manque un allié militaire qui était très utile, très puissant, et qui avait un peu une vision internationale aussi des affaires étrangères qui manque certainement à l'Allemagne. Donc les deux regrettent, en fin de compte, pour différentes raisons, et maintenant il faut voir comment ils vont se retrouver là-dessus. Ça change évidemment l'équilibre des pouvoirs. On a vu que récemment, Mme Merkel, elle avait invité M. Renzi, en plus de François Hollande, pour discuter de l'Europe après le Brexit à Berlin. Ce qui était surprenant, qu'on a essayé de reconduire plusieurs fois cette alliance. Mais vous avez bien vu, à Bratislava, M. Renzi, il est pas venu à cette conférence de presse conjointe, un peu fâché, qu'il a dit qu'il ne couvre pas les compromis de façade, c'est pas ça qu'il faut. Donc là, vous n'avez justement pas une relation comme entre la France et l'Allemagne, où les dirigeants ne peuvent pas se passer de cette mise en scène, qu'on peut critiquer, qu'on peut questionner, mais visiblement, il y a quelque chose de plus profond qui les oblige à s'afficher, à afficher ce moteur franco-allemand. S'il n'y avait pas besoin de s'afficher unis entre Français et Allemands en Europe, ils ne le feront pas, je crois pas.
Alors, il y a des choses qu'on pouvait faire avec l'Allemagne et qu'on fait, notamment en matière d'intégration politique, qu'on ne peut pas faire par définition avec Londres. Et réciproquement, il y a des choses qu'on peut faire ensemble entre Londres et Paris et qu'on ne peut pas faire pour d'autres raisons avec l'Allemagne. Et si, encore une fois, le Brexit est acté, à ce moment-là, c'est une autre Europe. Et on est en train de tourner une page, tout le monde le sait, et personne ne veut le dire. C'est la fin on l'avait dit il y a quelques années, le projet de l'Union européenne est quand même un peu explosé. Enfin, c'est le fédéralisme plutôt qui a un peu explosé en vol.
Oui, on se pose ces questions, même dans les milieux fédéralistes qui étaient traditionnellement très forts en Allemagne, vous le savez, c'était un projet d'après-guerre. Maintenant, il faut voir comment on s'en sort, et ça explique en partie cette hésitation d'Angela Merkel de proposer ou d'essayer de trouver un projet d'après-Brexit. Vous avez vu que là encore, nous avons des divergences franco-allemandes. En France, on semble pousser vraiment pour cette idée d'une Europe à plusieurs vitesses, d'un noyau dur autour de la France et l'Allemagne, et bien évidemment, ce qui équilibrait un peu la position de la France actuellement un peu défavorable pour la France. Et en Allemagne, Mme Merkel, elle veut tout faire pour garder l'Europe aussi unie que possible, c'est-à-dire, sous-entendu, pas des formes différenciées d'intégration, c'est-à-dire elle souhaite vraiment garder à bord, notamment les Européens de l'Est arrivés récemment.
Alors, juste peut-être une dernière question, dans l'impression que l'Allemagne, excusez-moi l'expression, en prend un peu à ses aises depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a eu le traitement évidemment de la dette souveraine et en particulier à l'égard de la Grèce. Il y a eu le retour à la pollution, c'est-à-dire aux centrales à charbon. Il y a eu l'afflux des migrants tout à fait incessant, 1 100 000 dans l'année. Et puis, ce qui a des conséquences pan-européennes d'une certaine façon. Et il y a eu aussi la réouverture en 2016 des négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, etc. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. L'Allemagne fait un peu ce qu'elle veut et elle profite, il faut le dire d'ailleurs, de la faiblesse de la France et de la division des autres Européens. Il faut tenir la balance égale, comme on dit.
Et ça commence à faire beaucoup, vous avez raison. L'Allemagne le fait tout simplement puisqu'elle peut le faire, elle peut se le permettre. Dans le passé, la situation était différente. C'était plutôt du côté de la France, notamment de l'Angleterre, parfois, qu'on a pu voir ces tentatives de faire cavalier seul. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a cette capacité, mais en même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes en Europe, nous restons en Europe. Il n'y a pas de vraie hégémonie d'un pays sur les autres, et les choses se rééquilibrent très vite. Si vous prenez la question des réfugiés, paradoxalement, puisque c'est notamment...
Juste d'un mot, parce qu'on arrive à la fin, on se retrouvera un autre jour. Oui.
Justement, c'est Angela Merkel qui les a fait venir, mais maintenant c'est l'Allemagne qui dépend aussi des autres Européens pour trouver des solutions. C'est des mécanismes de solidarité, donc en quelque sorte, ça rééquilibrer la relation entre Européens.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg et puis franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger et notamment écouter l'émission de vendredi dernier sur les questions européennes. Vous l'aviez souligné, Émilie.
Merci à vous, Thierry Garcin. Et demain, cap sur la Libye.
Oui, absolument. Cap sur la Libye avec la guerre civile et l'imbroglio politique. Notre invité sera Ali Ben Saad.
Merci à vous. Et malgré les apparences, on reste encore un peu en Allemagne, sur France Culture. Il est 6h55. Michael Jackson qui rend fou François Angelier, le matin. Vous bougez dans tous les sens, alors moi je dis ça.
Mais non, il danse.
Il danse, mais il adore danser tous les matins. C'est ma joie visuelle de 6h55. Michael Jackson, We Are Almost There. On y est presque. Titre de 1975. Michael qui chante peu importe la difficulté de la tâche à accomplir, ne jamais abandonner ses plans ni ses rêves. Aucun pont coupé ne peut nous barrer la route. Angela Merkel qui abandonne son Wirtschaftsfendas, ce nous y arriverons qu'elle a lancé et réitéré à la fin de l'été, leitmotiv censé définir la ligne de sa politique migratoire. Un article paru hier sur le site du journal Le Monde nous apprend que la chancelière allemande considère désormais ce Wirtschaftsfendas comme un simple slogan, une formule creuse et vide de sens. Pas si creuse si on regarde le 1,5 million de réfugiés accueillis en Allemagne en 2015. Mais il y a les élections législatives qui se profilent dans un an et une volonté de rallier les factions les plus conservatrices de son parti et de l'échiquier politique pour éviter un second échec électoral. Bonjour Guillaume Erler.
Bonjour Émilie Chaudet.
Vous aussi, dans un instant, vous allez lancer un autre message d'espoir. Il est 6h57 sur France Culture.
L'humeur du matin, Guillaume Erner.
Un message d'espoir, Guillaume, que vous adressez à toute la classe politique.
Absolument, à tous ces politiques qui sont dans la détresse, qui voient leur cote de popularité stagner au niveau de la mer, voire au niveau de la mer morte. Amis politiques, il existe un espoir pour vous et il se nomme Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac était au pouvoir, souvenez-vous à quel point il était impopulaire et sa vie dissolue, je veux dire la dissolution. Vous vous en souvenez? On a tant et tant glosé sur la moralisation du politique, la transparence, le non-cumul des mandats, morale, transparence, non-cumul. Jacques Chirac cherchait l'intrus, n'y a-t-il pas là comme un léger paradoxe? Car Jacques Chirac, sur le papier en tout cas, c'est à peu près tout ce dont les Français sont censés ne plus vouloir. Voilà un homme politique qui n'a été que politique, sa vie durant, a épousé à peu près tous les points de vue, depuis l'ultralibéralisme jusqu'au souverainisme. Ce n'est pas lui manquer de respect, François, que de rappeler qu'il a essuyé quelques petits démêlés avec la justice, même si ses ennuis judiciaires semblent avoir fait pchit dans la mémoire de l'opinion. Enfin, il sera particulièrement difficile pour les historiens du troisième millénaire d'attacher son nom à une réforme particulière. Ses deux mandats ayant ayant laissé certes un excellent souvenir aux Français, mais un peu comme ces films qui distillent une musique agréable alors même qu'il ne s'y passe à peu près rien. Oui, voilà, Jacques Chirac est sympathique, il aime la corona, la tête de veau, trois informations qui ont certainement une valeur pour choisir un compagnon de banquet, mais qui n'en ont à peu près aucune dès lors qu'il s'agit d'un président de la République. Alors oui, vraiment, cette passion pour Jacques Chirac mérite de figurer dans la France mystérieuse, plus étrange encore que la bête du Gévaudan. Voici l'animal politique.
Et d'ailleurs, François me fait signe, me montre la revue Schnock. Peut-être que Jacques Chirac peut faire la couverture bientôt.
À quand un numéro spécial de Schnock sur Jacques Chirac?
En tout cas, Jacques Chirac qui apparaît sur des t-shirts et des sacs, ça pourrait mériter presque une humeur du jour de votre part, Guillaume Erner, sur la hipsterisation de la figure de Jacques Chirac. Merci beaucoup,
le
Guillaume.
Le pull sur les épaules aussi.
On vous retrouve dans un instant, Guillaume. Le temps pour moi de remercier les chic types des petits matins, François Angelier, Thierry Garcin, Jacques Munier, Toufik Hakem, Mydia Portis-Guérin, réalisatrice de la première heure, accompagnée à la prise de son ce matin de Théo Gomard.